gras, salé, sucré.
RMC, il est 11h. Un point sur l'info avec Cassandre Brault.
Le secteur des vins et spiritueux français appelle à poursuivre les négociations sur les droits de douane américains. Il devait entrer en vigueur aujourd'hui. Ce sera finalement jeudi prochain, le 7 août. Hier, Donald Trump a signé le décret pour fixer le montant. Pour l'Union européenne, ce sera donc 15% et pas d'exception pour les vins français. Réaction de Jean-Marie Fabre, président du syndicat des vignerons indépendants de France, invité de RMC ce matin.
Je pense que le pire est jamais certain et que le combat qu'on perd, c'est celui qu'on mène jamais. Et ce que je sais, c'est que du côté à la fois de la ministre de l'Agriculture ou du ministre du Commerce extérieur, ils sont très mobilisés, très engagés sur ce sujet. Et pour eux, le secteur des vins et spiritueux, dont je rappelle qu'il est le second secteur de la performance économique française à l'export, que c'est un secteur qui pèse énormément dans l'économie des territoires, reste un secteur clé pour eux. Et c'est tant mieux. Je pense qu'il faudra taper du poing sur la table pour qu'à un moment donné, la Commission ne puisse pas, dans ce deal-là, sacrifier le secteur des vins spiritueux au profit de l'automobile allemande ou de l'aéronautique ou de je ne sais quel autre secteur industriel.
Deux hommes retrouvés tués par balle dans les locaux d'une entreprise de BTP. C'est arrivé cette nuit dans une commune à une vingtaine de minutes de Dijon. D'après le maire sur place, les deux hommes étaient apparemment des employés. La France va larguer 40 tonnes de vivres sur la bande de Gaza. Quatre avions avec chacun à leur bord 10 tonnes d'aide humanitaire vont décoller aujourd'hui depuis la Jordanie. Une aide d'urgence mais évidemment insuffisante, a reconnu Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangère. Nouveau record du nombre de détenus dans les prisons françaises. 84 951 détenus enregistrés au 1er juillet, contre un peu plus de 62 000 places opérationnelles. La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en termes de surpopulation carcérale. Et le Quintet Plus se déroule sur l'hippodrome de Cabourg à 20h15. Pronostic de la Dream Team des courses RMC, leur favori est le 15 Instructor, leur outsider l'As Hibiscus Normand. RMC, il est 11h01. Dans un instant, le meilleur des grandes gueules.
RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Le meilleur des GG a dégusté en plusieurs épisodes au cœur de l'été. Il y a eu un moment fort dans les GG, dans les grandes gueules cette année. C'est lorsqu'on a reçu notre confrère Nicolas Demorand, venu parler de sa maladie mentale, de sa bipolarité.
On a parlé bien sûr beaucoup politique cette année encore avec les grandes gueules, et notamment le scrutin à la proportionnelle. Est-ce que c'est une vraie bonne idée? On parlait aussi contrôle routier. Faut-il interdire les appels de phare pour alerter les autres automobilistes?
RMC, face aux grandes gueules.
Nous le remercions d'être là parce qu'il se lève très très tôt. Ensuite, il va aller se reposer. C'est notre confrère de France Inter, Nicolas Demorand, qui est avec nous pour ce livre qui fait beaucoup parler de lui, qui déclenche beaucoup de réactions, qui se vend très bien parce que bon nombre de Français s'y retrouvent aussi. Il s'appelle Intérieur Nuit. Il est aux éditions Les Arènes. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour et bon anniversaire.
Merci beaucoup. Oui.
Parce que c'est
54 aujourd'hui. Voilà.
Vous êtes un malade mental. Alors, je dis ça, c'est pas pour vous être désagréable.
Non, du tout.
Mais c'est la première phrase choc de votre livre.
C'est pas une insulte, c'est quelque chose que j'ai voulu revendiquer parce que c'est la vérité et que cette vérité est impossible à dire ou à entendre aujourd'hui en France. Il y a autour des maladies mentales une honte, une suspicion. C'est pas vraiment des maladies. Et il me semblait important de dire les choses fortement, clairement, et de revendiquer ce statut qui peut être un stigmate.
Mais quelle est cette maladie mentale ?
Alors, je suis ce qu'on appelle bipolaire de type 2. Je vais préciser pour le type 2, mais un bipolaire, c'est quelqu'un dont l'humeur varie de manière très forte, et très régulière. C'est un yo-yo. Vous montez parfois et vous êtes le roi du monde. Vous ne dormez pas, mais vous avez une énergie folle. Et le yo-yo descend. Et à ce moment-là, c'est la dépression. Vous ne pouvez plus bouger de votre canapé. Vous êtes littéralement effondré. Et donc, type 2, c'est une bipolarité qui est plutôt du côté de la dépression. Type 1, c'est une bipolarité qui est plutôt du côté de ce qu'on appelle la manie. C'est ce qu'on appelait avant la maniaco-dépression. Mmh. Voilà, donc type 1, les phases d'explosivité. Type 2, les phases de dépression.
Et qui est apparu quand ?
Difficile à dire. Le diagnostic a été posé il y a 8 ans maintenant à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui est un très grand hôpital psychiatrique. Le diagnostic pour les médecins ne faisait absolument aucun doute, même si moi j'ai eu un peu de mal à me l'avaler, parce que c'est une maladie dont on ne guérit pas. C'est une maladie qui vous suit, vous harcèle, une maladie qui vous dépossède d'une partie de vous-même, une maladie qui implique de prendre des médicaments à vie. Donc, si le diagnostic aux yeux des psychiatres qui m'ont vu à ce moment-là était très clair, pour moi, ça a été un peu plus dur à avaler. Ensuite, il y a une autre partie de ma vie qui a précédé le diagnostic, où là, ça a été de la souffrance pure.
Qui se manifestait comment, cette souffrance pure ?
La bipolarité, c'est une saloperie. Quand vous n'êtes pas diagnostiqué, en fait, on ne vous donne pas les bons médicaments. Vous allez voir votre généraliste, vous lui dites la vérité, je suis vraiment pas bien en ce moment.
Je dors mal, je me sens pas bien, mal dans ma peau, c'est ça, ouais. Ouais,
mal dans ma peau, mal dans ma tête, j'ai aucun désir pour l'avenir, aucun désir du tout, je pense être dépressif. Et le diagnostic d'une dépression, il est assez facile à faire. Si ce n'est que les antidépresseurs qui vous remontent, eh ben, ils remontent trop fort un bipolaire. Et donc moi, je yoyotais avec une violence insensée entre des phases où j'étais effondré, des phases où je remontais très haut. Et ce qu'on sait, c'est que... Et
quand on remonte très haut, on est comment, en fait? Parce que effondré, on peut imaginer, mais très haut, ça
donne quoi? Très haut, je vous dis, c'est le sentiment de la surpuissance. C'est... Vous parlez de plus en plus vite, vous réfléchissez vite, vous pouvez avoir 10 000 idées à la fois, 10 000 projets à la fois...
Vous êtes de droite d'un coup.
Non, vous êtes les idées les plus folles.
Par exemple, vous dépensez de l'argent, vous achetez n'importe quoi.
Vous dépensez de l'argent, vous consommez de l'alcool qui est un euphorisant, mais aussi un calmant. Donc, vous avez un rapport toxique à l'excès. C'est ça la phase maniaque.
Et quand vous êtes au fond du trou, c'est on ne bouge pas de son canapé.
Oui, on
ne
bouge pas, ouais.
Fait livrer, on n'ose même plus sortir de chez soi.
Non, moi, il faut... c'est bizarre, quand même. La souffrance extrême... à l'idée même de mettre un doigt de pied dehors, d'ouvrir sa porte. Ça n'est pas possible. Et c'est pas parce que je suis casanier, c'est que je ne peux pas. Et voilà.
On peut, quand on vit ça, avoir une vie de famille, une vie amoureuse, une vie professionnelle. Vous l'avez, on va y revenir, parce que vous l'avez d'une façon assez intense. Mais par exemple, une vie tout simplement intime, familiale, amoureuse.
C'est compliqué. Le bipolaire parle de lui, mais il ne voit pas les dégâts qu'il cause autour de lui. Que ce soit sur le plan de la vie amoureuse, affective, ou sur le plan de la vie familiale, c'est extrêmement difficile, parce que vous avez une personne dont le visage change, c'est très rapide, hein. C'est pas une longue descente sur des semaines après une phase maniaque, non, vous pivotez d'une phase à l'autre, parfois en quelques heures, et à ce moment-là, les gens qui vivent avec vous se disent mais qui est cette personne ?
D'accord. Alors les grandes gueules, Antoine, Bruno.
Moi je voudrais vous dire que moi votre livre m'a bouleversé parce que moi comme vous je suis un malade mental. Moi j'ai un syndrome post-traumatique. Je vis avec depuis le Bataclan parce que j'étais au Bataclan, et donc en fait je me suis reconnu dans votre approche où effectivement il y a des périodes hautes, des périodes basses. Moi je suis sur votre échelle qui va de moins 7 à plus 7. Moi je suis souvent plutôt moins 3. Et plus 2, plus 3. Et en ce moment, je suis plutôt entre 0 et 3, donc ça m'arrange un peu. Mais effectivement, le manque de sommeil, le fait de savoir pourquoi on se lève, et puis que des fois, de ne pas vouloir sortir, de ne pas vouloir... Et puis voilà, moi j'ai trouvé...
C'est fou ce truc-là, de ne pas vouloir sortir.
Non, et puis j'ai refusé le médicament, parce que moi, derrière, les psychologues, on prenait quelque chose, le médecin, non, je ne veux pas, je voulais m'en sortir tout seul. Donc ce que j'ai fait, je me suis engagé. Je me suis engagé pour les autres. Donc, j'ai fait du syndicalisme, je fais des interventions milieu scolaire et tout. Donc, l'engagement m'a fait qu'à un moment donné, je me suis occupé des autres et pas de moi. Le jour que le process est fini, je me suis retrouvé un peu face à moi-même et je me suis dit, oh, Et là, j'ai pris un coup, je me suis séparé, enfin, je suis parti un peu dans tous les sens, à un moment donné, en disant, et cette année, j'étais pas bien. Et je suis retourné voir un psychiatre. J'ai dit, ouais, ça va pas, j'étais par contre descendu à moins 5, moins 6. Ouais. Hein. J'étais voir un psychiatre, je pensais au suicide comme vous. J'y ai pensé en début d'année, j'y ai pensé en fin d'année dernière. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce qui me prend? Moi, jamais j'ai pensé à ça. Pendant le Bataclan, j'y pensais parce que j'avais tellement d'idées sombres après le Bataclan que je me disais, faut que je fasse un trou dans ma tête pour que un peu la lumière.
D'accord. Il a gagné. Pression aussi, parce qu'il y en a qui vont être intéressés que...
Écoutez Forum en DAB+. Alors Alain, bonjour. Aujourd'hui...
Non, c'est le 45, c'est le même prix que le 41.
Minute, le temps de faire une pause et de récupérer un peu avant de vous redonner la parole. Je
vais... Et le soir même...
On va...
Les autres médicaments que je prends, c'est...
Contrairement au Texas.
Parce qu'en fait, ils sont pas vraiment...
Aimez la rentrée à vos enfants. C'est l'idée de ce...
En alternance.
Oui.
Et vous êtes...
Radio.
Chez Auchan, on fait le choix de vous proposer
une population
version de la 5, version
jamais reconnu quoi que ce soit, sauf.
Se soigne, pour soigner la bipolarité, je vais le dire comme ça, il faut de la stabilité. Et donc, la stabilité, vous pouvez l'obtenir avec les médicaments dont je parlais. Voilà, ça vous.
Final.
Finale de la symphonie numéro 39 de Mozart, antépénultième symphonie mozartienne dans l'interprétation du Concert des Nations, dirigée par Jordi Savall. Musique symphonique toujours, mais beaucoup plus rare. En l'occurrence, la symphonie Zwickau de Schumann. C'est une œuvre de jeunesse. Sa première symphonie, en fait, composée à Zwickau à l'âge de 22 ans. Et je vous propose d'en écouter le deuxième mouvement. Radio Classique pour vous accompagner dans votre matinée d'été avec Robert Schumann et le deuxième mouvement de la symphonie Zwickau, une symphonie oubliée que Jordi Savall et le Concert des Nations ont récemment remis au goût du jour, puisque cet enregistrement est de septembre 2024. Jordi Savall qui fête par ailleurs aujourd'hui son anniversaire, 84 ans. La suite de
là, sauf à Benidorm en Espagne.
Ah oui, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est incroyable? C'est un petit port de pêche, Benidorm?
Ah oui, c'est un petit port de pêche en Espagne, à 400 km de Madrid. Et le maire de cette petite ville, de ce petit port, se dit, il commence à y avoir des touristes, bikini, ça serait vachement bien, mais on est sous Franco, donc on n'y pense même pas, à part que lui, il pense. Et il va aller voir, il prend un rendez-vous avec le gouvernement et avec Franco en particulier. Petit détail assez amusant, c'est qu'il n'a pas de voiture, donc il va faire les 460 km en scooter. Il va avoir le rendez-vous avec Franco, donc là c'est bienvenue sur le Titanic. Hein. Et surtout que dans le rendez-vous, il va demander à sa femme, la femme de Franco, d'être là pour donner son avis. Donc de toute façon, il y a 99 chances sur 100 pour que de toute façon ça ne se fasse pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, puisque dans ce rendez-vous, il n'y avait que 3 personnes et pas de témoins. Mais quand il sort, il a l'autorisation, et uniquement sur Benidorm, et uniquement dans sa ville, d'avoir le bikini. Donc Benidorm va exploser à ce moment-là, parce que c'est le seul endroit d'Espagne où il y a un petit peu de liberté. Et ça tient jusqu'à maintenant, parce que chaque été, il y a 2 millions de personnes qui viennent à Benidorm, qui ont pris l'habitude.
Si cette histoire vous amuse,
France Culture,
on peut la recommencer.
Ils ont changé le monde.
Si c'est pas drôle, je m'excuse.
Les vêtements,
en tout cas c'est
Ivan Jacob.
Alors que fait Louis Réard pendant ce temps-là? Parce que le bikini ne prend pas, et lui, est-ce qu'il essaye de continuer d'en vendre?
Il va continuer pendant de nombreuses années, donc il s'est rendu compte que le bikini, c'était pas terrible au niveau de la vente, donc il va faire ce qui est à la mode à cette époque-là, c'est-à-dire le maillot de bain une pièce. Donc, il va faire des maillots de bain. Comme c'est quelqu'un de pas vraiment raisonnable, il a un catalogue avec 50 types de maillots de bain. Il va essayer à chaque fois de faire du buzz. Alors, il y en a qui sont faits avec des lamelles de bois, d'autres qui sont faites avec des résistances pour pouvoir capter la radio, d'autres avec des trous sur la culotte où on peut bronzer avec le prénom de son petit ami. Enfin, c'est du grand n'importe quoi.
On devrait relancer ça, le maillot de bain qui capte la radio, qui capte France Culture sur les plages. C'est une bonne idée. Alors, Louis Réard meurt en 1984, et 4 ans plus tard, France 3 annonce dans son 19-20 la faillite de l'entreprise.
Louis Réard a toujours voulu être en avance. Il a toujours travaillé, il a toujours été un promoteur. Au sens du terme, je vais avant les autres. Bien. Il a donc voulu, le premier, libérer la femme. Et quand il a vu, après la guerre, que les femmes continuaient à être enserrées dans un carcan, il s'est dit, c'est pas possible. La femme est belle, il faut que je la montre.
Le bikini, une très belle histoire d'amour. Les plus jolies, les plus connues, Brigitte Bardot, Martine Carole, Jane Mansfield, Marilyn Monroe l'ont porté. Mais des anonymes n'ont pas su résister non plus.
Nous avons reçu, il y a quelque temps encore, une photo d'une personne âgée maintenant de 70 ans à peu près, et qui en 47 portait le bikini Réard, et qui nous a envoyé ce petit mot très sympathique. Comme vous pouvez le constater, nous avons eu ensemble beaucoup de succès.
Malheureusement, cette entreprise ne passera pas Noël. Son directeur doit mettre la clé sous la porte le 24 décembre au soir.
Voilà, c'est assez triste cette histoire de Louis Réard qui n'a jamais vraiment réussi à profiter de son invention. Ce qui est un petit peu cocasse, c'est qu'il est enterré proche de Gabriel Chanel en Suisse.
Il a passé sa vie à essayer de devenir célèbre, mais célèbre d'une manière positive. Il était célèbre, mais pas forcément positive. Donc, il a voulu faire partie des grands de la mode. Il a voulu faire partie du Gotha. Et ce n'est que quand il va mourir, qu'il sera enterré donc, au cimetière de Lausanne. Ses voisins de tombe, ça sera Pierre de Coubertin et Jeanne Viollet-le-Duc, mais surtout sa voisine la plus proche, c'est Gabrielle Chanel. Et donc ça, c'est pour lui, je pense que ça devait être fabuleux de réunir au firmament de la mode le bikini et la petite robe noire.
C'est incroyable. Alors sans Louis Réard, en tout cas, le bikini va continuer sa route et tout change en 1953 quand Brigitte Bardot pose en bikini sous les objectifs des photographes sur la plage du Carlton à Cannes. C'est pas un Réard qu'elle porte à ce moment-là, Patrice Godupont.
Ce n'est pas un Réard, je vous le confirme. C'est un bikini dont j'ai jamais trouvé la marque, mais par contre qui est très 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 bikini tel qu'on le connaît à cette époque-là et tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le bikini n'a jamais changé depuis ces années-là.
Et là, cette fois-ci, il passe pas du tout inaperçu, pas comme en 1946.
Ben, c'est-à-dire qu'en gros, la naissance du bikini, c'est cette date-là. C'est cette date-là, c'est-à-dire que...
C'est la vraie naissance du bikini.
La vraie naissance du bikini, c'est Brigitte Bardot qui vient, révéler de tout le côté...
Sulfureux.
Oui, sulfureux, dans la mesure où, en 1952, c'est-à-dire l'année d'avant... elle a tourné dans un film qui s'appelle Manina, la fille sans voile ou autre en France, mais ça a été la reine du bikini en Italie, en Espagne, c'est-à-dire qu'elle est vraiment très très déshabillée. Et là aussi, des photos du film vont être repeintes parce que le maillot de bain est beaucoup trop petit par rapport à tout ça. Mais par contre, elle vient en 53 avec Vadim, qui lui est venu en tant que journaliste pour faire une interview de Leslie Caron.
Qui est son mari.
Qui est son mari depuis quelques jours. Donc voilà, elle a à peine 18 ans, elle a attendu 18 ans pour avoir l'autorisation d'épouser Vadim. Et ils vont venir tous les deux, elle va poser sur la plage du Carlton. Et là, il va y avoir... beaucoup de photographes, contrairement à Molitor, il va y avoir beaucoup de photographes parce que Brigitte Bardot n'est pas encore la star planétaire, mais c'est déjà une grande artiste. Voilà.
Et elle fait la promotion du film qui est sorti l'année d'avant ou
Non, pas du tout.
Elle fait sa propre promotion?
Non, elle ne fait pas du tout sa promotion. Donc, ils sont venus tous les deux pour des raisons extérieures. Donc, ils sont au Festival de Cannes. Mais chacun, elle n'est pas là pour Manina, lui n'est pas là pour ses films. Donc, non, mais c'est...
Mais ce n'est pas calculé, c'est-à-dire qu'elle pose sur la plage comme ça parce qu'elle est venue en bikini?
Exactement, ce n'est pas calculé, entre guillemets.
En tout cas, le film Manina, la fille sans voile, qui est rebaptisé d'ailleurs La fille en bikini, je crois, aux États-Unis, il obtient un visa d'exploitation seulement 5 ans après sa sortie en France. Les États-Unis sont beaucoup plus puritains que la France, Patrice Godupont.
Plus puritain que les États-Unis, surtout à cette époque-là, c'est pas possible. Non, ça c'est clair. Donc, c'est.
Il y a le code ACE dans le cinéma?
Justement, dans les tournages, on ne peut absolument pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas porter les vêtements qu'on veut, les comédiens ne peuvent pas s'embrasser. Tout est vu et surtout revu et corrigé. Donc le code S fait que de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Donc le bikini, bien évidemment, il y a des films avec Marilyn Monroe, où elle a deux pièces, mais deux pièces qui montent au-dessus du nombril. Le nombril, c'est vraiment... Le code S, c'est terrible.
Mais alors, pourtant, il y a des pin-up aussi dans les années 50 aux États-Unis qui contribuent à habituer l'œil aux deux pièces.
Oui.
Et ils ne montrent pas le nombril, peut-être. Ça dépend.
Si.
Certaines.
Donc,
il y a des culottes hautes et il y a des culottes basses.
Il y a des culottes hautes et des culottes basses, mais c'est surtout pour tout ce qui est live. Là, les pin-up, on est dans l'art. Donc, il y a plus cette possibilité-là.
Et il y a moins de censure sur les photos que dans le cinéma, sans doute.
Ah ben, il y a des censures sur les photos, mais pas sur les peintures.
Toujours est-il que malgré les résistances, le bikini devient populaire. Il est consacré vêtement de la saison en 1959 par Vogue, qui en disait pique-prendre 8 ans plus tôt. Pourquoi dans les années 60, il devient plus acceptable ce bikini, Patrice Godupont?
Pour une raison simple, c'est que la règle du jeu change tous les matins. Donc les mentalités changent, évoluent. On est encore après-guerre, mais on est passé avec avec le chiffre 5 dans les années 50. Et les années 50, il va y avoir une espèce de vent de modernité qui fait que même les gens qui ont des piques pendres du bikini, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc
Et puis il y a surtout une jeunesse nouvelle, celle des baby boomers qui atteignent l'adolescence.
Il y a la jeunesse nouvelle, il y a une musique nouvelle. Donc il y a vraiment des choses qui changent dès les années 50. Alors que en 49, on est encore dans l'après-guerre. C'est-à-dire les tickets de rationnement se terminent en décembre 49.
C'est aussi un enfant de la mode yéyé. C'est aussi cette émergence soit d'une jeunesse et d'une mode à part adolescente qui n'existe pas auparavant.
Bien sûr. L'explosion de la musique fait qu'on est passé à autre chose. Ça c'est clair.
C'est aussi le temps du dévoilement des corps, de la mini-jupe, à laquelle participe grandement André Courrèges. Courrèges disait « Je laisse au corps toute sa liberté. L'évolution sociale de la femme est telle qu'il n'est plus question, par de faux volumes, d'entraver ou de cacher le corps. » Est-ce que c'est aussi grâce à Courrèges que le bikini a pu se généraliser ?
Non, je pense pas. Je pense que le bikini s'est généralisé doucement. Je pense qu'il y a trois femmes qui ont contribué au succès du bikini, et au succès qui ne se dément pas, puisque de toute façon c'est encore aujourd'hui. Je pense que c'est en 48 Suzy Bastide avec la publicité Ambre Solaire, en 53 Brigitte Bardot sur la plage du Carlton, et en 63 Ursula Andress avec James Bond. C'est vraiment ces trois dates qui font que on va s'habituer peu à peu à ce qui était impensable. Et après Ursula Andress, on parle plus de rien. Voilà, le bikini, c'est comme le jean, on se pose plus la question.
Alors justement, en 1962, Ursula Andress sort de l'eau dans un bikini avec une ceinture et sur la culotte un poignard, sans doute le bikini le plus célèbre de l'histoire.
Il règne ce matin chez Christie's une atmosphère de suspicion et de convoitise. Qui aura les moyens d'acquérir l'un de ces objets mythiques de la célèbre série des James Bond ? Le pistolet à air comprimé de Bon Baiser de Russie ou l'ensemble de nuit estampillé des initiales magiques ? Des bagatelles estimées entre 40 et 50 000 francs. La Rolex de Vivre et laisser mourir, elle, ne partira pas à moins de 150 000 francs. Elle permet de couper des liens, mais aussi d'ouvrir des fermetures éclair. Aujourd'hui, la pièce maîtresse dans la célèbre salle des ventes londonienne, ce n'est pas une commode victorienne, mais deux petits morceaux de tissu portés par la première d'une longue série de séductrices de l'agent 007, Ursula Andress, la naïade de James Bond contre Dr No. Mais qui est-ce que ça peut intéresser ?
Bikini fashion.
Des fétichistes du bikini, je suppose.
Cet objet est évalué à combien ?
Le bikini ? On s'attend à ce qu'il fasse dans les 500 000 francs.
Il a été vendu autour de 60 000 livres, finalement, ce bikini. Patrice Golupo, le cinéma a fait énormément pour le bikini.
C'est surtout ce film-là qui a fait énormément pour le bikini. Parce que on a vraiment l'impression que tout ce qui pouvait faire en sorte qu'on ait encore des réserves par rapport au bikini, le fait que Ursula Andress sorte de l'eau avec son bikini et son poignard, c'est tellement iconique, j'aime pas trop ça, mais enfin c'est tellement iconique, et en plus, ce qui est absolument fabuleux, c'est que rien n'est prévu. C'est-à-dire que le James Bond, c'est le premier James Bond. On pense pas que 40 ans après, on en fera encore.
C'est le tout premier de la série, mais à ce moment-là...
Les acteurs ne sont même pas connus. Sean Connery, il n'est pas connu. Il doit même pas être... Il n'est même pas accepté dans le casting. Après, il a été imposé, parce qu'on pense qu'il a un look de paysan, sans classe et autres, Sean Connery. Quant à Ursula Andress, elle est imposée par son mari, qui était producteur, et John Derek. C'est un petit budget, c'est tellement un petit budget, que le bikini d'Ursula Andress ne va même pas être fait en Angleterre. C'est-à-dire qu'ils vont le faire sur place à la Jamaïque, ils vont donner à faire ça un petit couturier dans la rue d'à côté. Donc, rien n'est prévu. Donc, c'est un film d'aventure comme il y en a 150 à cette époque-là. Mais là, ça va devenir, là on ne sait pas pourquoi, c'est toujours la théorie du courant d'air, il y a une porte et une fenêtre qui s'ouvrent en même temps, ça crée un courant d'air, ce courant d'air ne s'est jamais arrêté.
Mais si cette scène a autant marqué les spectateurs, c'est parce que ce n'est pas encore très courant de voir une femme en bikini dans les années 60 au cinéma ?
C'est pas courant du tout. Du tout, et de faire en sorte que cette femme est toute seule à l'écran, c'est cinématographiquement, c'est très très fort, et ce qui est assez étonnant, c'est que cette image très très forte, si vous regardez le film, je l'ai revu il y a peu de temps, c'est quand même un gros nanar.
What's a boy not supposed to do? tout l'été.
You're listening to
if only cool.
placard et on prend la guitare. Un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents. On prendra tout notre temps. Je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs. On peut fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur. Tout est permis, et si ça nous va bien, dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi. Destination ailleurs.
Fréquence 3 dans le Loir-et-Cher. 89.9 FM. La radio locale du Loir-et-Cher. Fréquence 3.